Post-scriptum.
Van Gogh n'est pas mort d'un état de délire propre, mais d'avoir été corporellement le champ d'un problème autour duquel, depuis les origines, se débat l'esprit inique de cette humanité. Celui de la prédominance de la chair sur l'esprit, ou du corps sur la chair, ou de l'esprit sur l'un et l'autre. Et où est dans ce délire la place du moi humain ? Van Gogh chercha le sien pendant toute sa vie avec une énergie et une détermination étranges. Et il ne s'est pas suicidé dans un coup de folie, dans la transe de n'y pas parvenir. Mais au contraire, il venait d'y parvenir et de découvrir ce qu'il était et qui il était. Lorsque la conscience générale de la société, pour le punir de s'être arraché à elle, le suicida. Et cela se passait avec Van Gogh comme cela se passe aujourd'hui d'habitude à l'occasion d'une partouze, d'une messe, d'une absoute ou de tel autre rite de consécration, de possession, de succubation ou d'incubation. Elle s'introduisit donc dans son corps, cette société absoute consacrée, sanctifiée et possédée. Effaça en lui la conscience surnaturelle qu'il venait de prendre. Et telle une inondation de corbeaux noirs dans les fibres de son arbre interne, le submergea d'un dernier ressaut et, prenant sa place, le tua.
Car c'est la logique anatomique de l'homme moderne de n'avoir jamais pu vivre ni penser vivre qu'en posséder.
Étude du docteur Baer sur le démon de Van Gogh. Suite. Être complexe, inconscient en ce qui concernait sa vie matérielle, mais parfaitement lucide dans l'exercice de son art, formé de qualités et de défauts contradictoires et disproportionnés, doué d'une imagination, de facultés d'invention et d'expression géniale, il présentait des lacunes et des excès d'éléments psychiques. On peut retrouver dans ses jugements sur les peintres les manques des aphroniques de Bérillon. Il manquait aussi de continuité d'esprit et d'unité de direction dans les actes de la vie, et était incapable de surveiller ses intérêts, de faire prospérer ses affaires. Ses défectuosités, ses incapacités, ses mauvais penchants accablaient ceux qui devaient partager son existence. Mais il se distinguait des déséquilibrés sans génie, dont l'apparente richesse de moyens ne s'accompagne jamais de résultats en proportion, par tout ce qui sépare les sensibilités géniales des déséquilibrés brillants, mais stériles. Rebelle à toute discipline, incapable d'un travail assidu, d'accepter une observation, exaspéré quand on se permettait de lui donner des conseils, il quittait alors tout dans une tempête d'imprécations. Il discutait avec Gauguin, de façon à tendre les nerfs jusqu'à l'extinction de toute chaleur vitale. De leur controverse, d'une électricité excessive, ils sortaient éreintés. Son manque de pondération mentale se révélait par des excentricités. Il avale ses couleurs, menace Gauguin et le docteur Gachet, sort la nuit pour peindre à la lueur d'une couronne de bougies sur son chapeau. Hanté par des idées d'autocastration, il se tranche le lobule d'une oreille. D'innombrables actes incohérents ont fait qu'on le considérait comme un fou. Des gamins de rue couraient après lui. Toutes ces réactions de son entourage l'irritaient davantage encore. Et pour échapper à ces vertueux anthropophages, il demanda lui-même qu'on l'internât à Saint-Rémy. Souvent irrésolu, très suggestionnable, surtout par ses lectures, ses décisions de se faire prédicateur de l'Évangile et de partager la vie des mineurs, de vivre en ménage avec une prostituée, lui furent inspirées le plus souvent par des lectures sans choix et sans directive. Ces gestes impulsifs marquent une certaine prédominance de la spontanéité sur la réflexion et la volition. Une certaine labilité d'humeur, des alternatives d'excitation et de dépression, surtout sous l'influence de l'alcool, du tabac et du café, avec des paroxysmes d'agitation motrice, des accès d'emportement violents, des crises de désespoir pour des motifs qui ne le justifiaient pas, achève avec mention encore de très légers stigmates de dégénérescence fournis par une asymétrie faciale et une difformité crânienne peu marquée, le tableau symptomatique de la psychologie constitutionnelle de Van Gogh. Sujet à des épisodes d'excitation, de délire, de calme, Van Gogh était un dégénéré du type maniant. Les autopsychiatriques germano-suisses en feraient, après Kraepelin et Bleuler, un schizophrène dans le sens précis que Minkowski a fixé dans Schizophrénie et notion de maladie mentale, Encéphale 1926. On peut estimer que ce peintre de génie était atteint de psychopathie constitutionnelle dont les épisodes n'ont fait que s'aggraver le long de son existence. La parenté morbide que l'on constate chez le frère de Vincent est une preuve à l'appui de ce fait que le peintre était atteint non d'une maladie acquise comme la schizophrénie, mais d'une affection dégénérative. On ne peut soutenir que la folie engendre le génie. Toutefois, des troubles psychiques sont susceptibles d'éveiller dans certaines conditions des phénomènes d'association qui sont un résultat très heureux dans la production artistique. En ce qui concerne Van Gogh, on ne peut dire que son activité artistique soit due aux troubles psychiques qui ont provoqué son internement et sa fin malheureuse.